BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, on s'intéressera à Issy Barbès qui a pris son indépendance de TBWA. Laurence Vignon, la vice-présidente, sera avec nous. On sera également avec Alban Calais, directeur général adjoint de DDB Paris, et Clément Prévostot, directeur marketing d'Ubisoft, pour parler de la nouvelle campagne autour du nouvel opus d'Assassin's Creed. Et puis en fin d'émission, rencontre avec Christophe Feuillet, le directeur communication de GRT Gaz. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Marie Valogne.
Bonjour Aurélie.
Alors Marie, on commence ces news avec la dernière campagne d'ING Direct qui a choisi un ton plutôt décalé.
Et oui, pour mettre en avant l'efficacité de son service client, eh bien ING Direct a décidé de se moquer de celui des autres. Alors on les connaît, hein, ces longues minutes d'attente au téléphone quand on cherche à joindre un service client, la musique nous énerve, et puis ce qui nous énerve encore plus, c'est que ces minutes nous sont facturées. Alors ING Direct et son agence Rosa Park ont décidé d'aller encore plus loin dans cette campagne avec une caméra cachée dans une station essence et des clients qui payent leur temps d'attente en caisse.
Bonjour madame. Donc il y a 20,10€ pour l'essence et 14,95€ pour la taxe d'attente, s'il vous plaît.
14,95€, qu'est-ce que c'est que ça?
Le temps que vous avez passé à attendre, en fait. Il est payant maintenant.
Quelle taxe?
La taxe d'attente.
Je paye ça, l'attente. J'ai cherché mon pétrole en Arabie Saoudite direct.
Vous savez, des fois, vous appelez au téléphone, sur certains services, vous payez l'attente. L'attente, elle n'est pas gratuite.
Non, mais c'est ridicule, ça. Vous prenez les gens au kiki, vous.
Seule chose que je puisse faire, c'est vous offrir un petit bonbon.
Non, mais j'en veux pas de bonbon.
Vous me redonnez ma carte.
Madame, je viens de rajouter 1,10€. Si vous voulez pas, je rajoute 2,20€.
Je refuse de payer.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Marie, quand même? Bon, c'est signé Rosa Park. Alors, on en parlait récemment dans Hebdo.com, la dernière campagne publicitaire de Nike aux États-Unis avec Colin Kaepernick, et les premiers résultats sont très positifs pour
la marque. Oui, Nike parle d'une adhésion record des consommateurs suite à cette campagne. Alors, pour rappel, pour fêter ses 30 ans, la marque a mis à l'honneur le joueur de football américain avec une photo de son visage sur sa dernière campagne. Une campagne qui a fait du bruit, puisque Colin Kaepernick est connu pour ses gestes de protestation contre les violences policières racistes. Le joueur s'agenouillait à terre lors des hymnes américains avant un match. Alors, les conservateurs n'avaient pas aimé ce choix, allant même jusqu'à brûler leurs chaussures Nike. Sauf que cette prise de position a visiblement payé. La marque dit bénéficier d'un effet Kaepernick positif pour son image de marque et ses ventes.
Autre campagne cette semaine que vous avez remarqué, celle d'APF Handicap qui dénonce le manque d'accessibilité dans les transports en commun pour les personnes handicapées.
L'association dévoile une campagne percutante, un plan de métro de Paris qui montre uniquement les stations accessibles aux personnes en situation de handicap, et le résultat est saisissant. Toutes les lignes de métro ont disparu sauf la ligne 14. Seules 9 stations de métro sur 303 sont accessibles aux personnes handicapées. La campagne est signée Brand Station.
Et puis on vous le disait la semaine dernière, les annonceurs sont de plus en plus méfiants envers leurs agences. On a eu une nouvelle preuve cette semaine avec Philips qui a carrément décidé de s'en passer.
Et oui, le géant néerlandais va désormais travailler directement avec Google, Facebook et Amazon. Selon Philips, le recours à une agence de pub est de plus en plus inutile. Leurs outils publicitaires sont tellement simples que les marques peuvent gérer elles-mêmes leurs campagnes en interne, se passer des agences, faire des économies, mieux vérifier aussi l'utilisation des budgets et la fiabilité des audiences. Philips, par exemple, va désormais optimiser et mesurer lui-même la performance de ses campagnes sur Google et Facebook.
Bon, on cherchait un exemple la semaine dernière de groupe qui se passerait d'agence, on a trouvé ça.
On a trouvé, ouais. Ils ont peut-être pas complètement tort sur certains points. En revanche, une agence, ça sert quand même à stimuler la créativité de l'annonceur. Et ça, à mon avis, même si Philippe sait faire des tas de belles choses, je suis pas sûr qu'ils savent faire vraiment bien leur communication.
Eh ben, on verra dans les prochaines communications. Merci Marie Valogne.
BFM Business, Hebdo.com. L'invité.
Et l'invité de la semaine, c'est Laurence Vignon. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'agence Issy Barbès. Vous avez annoncé la semaine dernière votre prise d'indépendance. Vous avez quitté TBWA. Pourquoi ce choix?
Alors, c'est d'aller jusqu'au bout, en fait, d'un projet d'agence. Issy Barbès a toujours été une agence qui a vécu en indépendance du groupe TBWA, qui a elle-même géré sa stratégie, ses ressources humaines, son modèle économique. Et donc, il y avait quand même cette dimension très fortement entrepreneuriale dans l'agence ICI Barbès. Et au bout d'un moment, on s'est dit que c'était intéressant d'aller jusqu'au bout de ce projet, sachant que TBWA est plutôt dans une approche d'organisation un peu par verticale, des expertises publicitaires, des expertises sociales, de ces expertises. Or, ICI Barbès souhaite vraiment rester une agence transversale. Donc c'est ce projet-là qu'on veut mener jusqu'à son terme en quittant le groupe TBWA. C'est pas si grave puisqu'on y est resté 30 ans.
Ouais. Ah oui, 30 ans quand même.
Voilà, mais exactement, c'est une longue histoire. Mais c'est aussi maintenant le souhait vraiment dans l'action de développer le projet d'ICI Barbès à part entière. C'est comme quand les cofondateurs d'Instagram quittent Facebook. Je pense qu'ils ont été très très bien avec
Sauf que eux, ils ont laissé leur entreprise. Voilà. Vous la laissez pas, vous non, la prenez
la
avec
pas.
Vous.
Ouais, on la laisse.
Ça va
vrai.
Plutôt à contre-courant des mouvements qui sont plutôt de concentration, de grosses agences ou de grosses boîtes qui en rachètent des petites, etc. Donc, c'est incontestablement courageux de le faire.
Oui, sans doute.
Au fond, quels avantages vous voyez au fait d'être seul dans un monde où il y a plutôt des géants, quoi?
Alors. Vous avez raison. D'abord, je pense en effet que c'est assez courageux. Et j'associe Gilles Abou, avec qui on est allé jusqu'au bout de ce projet. C'est pas facile parce que c'est quand même du travail et des longues discussions. Donc c'est l'action d'abord qui a présidé à ce choix. On reste une agence solide puisque la marque est formidable.
Bien sûr.
On a une équipe de 93 collaborateurs à peu près. Mmh. On a monté et développé beaucoup de choses chez ICI Barbès. On a été vraiment, je pense, pionniers sur pas mal de sujets. Je vais pas monter au Consumer Magazine, mais là, récemment, le social listening. On a beaucoup investi sur les médias sociaux. Et donc, la structure, effectivement, est petite, pas concentrée dans un grand groupe. Mmh. Peut-être qu'elle a, du coup, des atouts. Ces atouts, c'est sans doute l'agilité. Mmh. C'est sans doute aussi des atouts vis-à-vis de l'interne et peut-être une manière aussi un peu nouvelle de parler, de traiter les collaborateurs. Voilà, il y a plein de choses qu'on va développer. Pour l'instant, on est vraiment dans les débuts. On a un recul d'un mois, on a beaucoup d'idées. Elles sont pas encore toutes forcément mises en place. Les deux grands piliers à court terme, c'est vraiment la consolidation, parce que c'est pas facile de sortir de cette histoire-là. On va recruter un directeur de création. On vient de faire d'assez jolies newbies. Et puis, c'est aussi la différenciation. C'est aussi ce qui a toujours fait la force de l'agence, et on va continuer sur ces deux piliers-là, et puis ouvrir sans doute plein d'autres horizons, encore une fois, et aux collaborateurs, et j'espère au marché.
Vous parlez beaucoup de vos 93 collaborateurs. Oui. Comment ça a été perçu, ce départ en interne? Ils vous ont tout de suite dit, oui, c'est bon, on vous suit, on y va?
Alors, je trouve, d'abord, parce que, encore une fois, c'est pas facile, et que c'est des choses qui explosent un peu, peut-être aussi, à la figure des équipes, qu'elles ont été formidables pendant toute la période où il a fallu, en effet, c'est-à-dire qu'au moment où on commence à communiquer, vous pensez bien que avant il se passe pas mal
oui,
de choses. Donc ils ont tenu la rampe, ils ont été vraiment très très bien, sans mélange des genres, sans mauvais esprit, vraiment superbe. Et puis avec eux, on a eu un courant de sympathie. Alors des collaborateurs, mais aussi globalement à l'annonce. Moi j'ai reçu un nombre considérable de messages. Peut-être que ça rejoint ce que vous disiez sur effectivement il y a plutôt des mouvement de concentration, et puis aussi sans doute de l'attirance pour des projets, parce que c'est un projet ICI Barbès, c'est un choix des managers de sortir et de faire de cette agence un projet à part entière, et donc on a eu beaucoup 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 de messages de sympathie.
Et sur les budgets, vous arrivez à garder des clients? TBWA est pas parti avec tout le portefeuille?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'agence a toujours vécu en indépendance.
D'accord, donc ça vous permet de...
Les budgets qu'on avait avant, on les a toujours.
Vous les avez gardés?
On les a tous gardés.
D'accord.
On a McDo, on a la Maïf, on a l'assurance maladie, on a des nouveaux clients. On les a tous gardés.
D'accord.
On les a tous gardés, on a gardé l'ensemble de nos compétences. Enfin, c'est pour ça que je dis, la marque est là, les équipes sont là, les clients sont là. Et là aussi, évidemment, je les remercie beaucoup parce que il faut faire beaucoup de pédagogie et ils ont été très à l'écoute. Et donc, voilà. Donc, tout est là.
Et vous avez perdu quelque chose quand même, non? Enfin, il y a des gens qui sont partis, il y a dans une séparation...
Dans une séparation, on perd forcément toujours un peu quelque chose. Encore une fois, il y a vraiment cette idée, je pense, de marquer des expertises fortes dans le groupe TBWA. Donc voilà, il y a effectivement des choses à reconstruire, mais j'espère qu'on va en gagner aussi.
Donc ça, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous resterez à Barbès ou alors vous changerez de nom.
Alors je sais pas. Est-ce qu'on restera à Barbès? C'est pas certain,
ah oui,
parce que l'immobilier à Paris est tel que je sais pas si vous connaissez nos locaux, mais c'est quand même un magnifique
locaux.
Immeuble à Barbès et qui est très convoité. Donc on s'accroche à notre immeuble, mais je pense que on va devoir sans doute bouger.
D'accord. Et vous pourriez garder
autant,
le même nom?
Mais pour autant, je sais pas. C'est un petit peu arrogant de dire ça, mais est-ce que la marque dépasse le territoire? En tout cas, on va essayer de faire en sorte que oui.
Merci beaucoup, Laurence Vignon. Je rappelle que vous êtes donc la présidente d'ICI Barbès, la vice-présidente.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Et aujourd'hui, c'est avec Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Bonjour Charlotte.
Bonjour Aurélie. Bonjour Frédéric.
Bonjour Charlotte.
Vous avez peut-être vu depuis le 19 septembre dernier une campagne d'affichage qui ne passe pas inaperçue. C'est d'ailleurs son objectif avoué. Une campagne très graphique, tout en mots, qui interpelle le chaland avec des jeux de typos, des phrases courtes, en apostrophes qui sont soulignées de leur raison d'être ou de leur définition. Alors on voit « bien vu » ou « évitez-moi du regard trop tard ». Essayez pour voir de ne pas me voir, ou encore celles qui commencent en caractères gros et gras, qui s'amenuisent et s'amenuisent au fur et à mesure du texte, sur laquelle on peut lire « Vous m'avez bien vu » et en plus vous prenez le temps de tout lire, tout ce tout petit texte jusqu'à la toute fin.
Oui, j'ai bien vu ça, oui.
Vous avez bien vu? Bon, alors pourquoi vous avez choisi de nous parler de cette campagne, Charlotte?
D'abord parce que c'est un annonceur qu'on voit assez peu s'exprimer en 4x3 et pourtant c'est son métier, c'est l'afficheur Clear Channel.
Ah
ouais. Voilà, il fait en fait la preuve de ce qu'il a de mieux à offrir, c'est-à-dire la force de l'affiche.
D'accord. Et à quand remonte la campagne du même genre, du coup?
Il y en a sûrement eu plusieurs, mais une seule est restée dans les annales. Et j'ai trouvé intéressant d'en reparler aujourd'hui parce qu'elle date de 1981. À l'époque, plusieurs villes de France avaient vu leur panneau d'affichage recouvert d'une photo sur laquelle un très joli mannequin était face à la mer en bikini, les poings sur les hanches. Et on pouvait lire sur cette affiche « Le 2 septembre, j'enlève le bas ». Le 2 septembre, on retrouve la même affiche recouverte d'une autre avec le même mannequin dans la même pose, à ceci près qu'elle avait effectivement enlevé le haut et pas le bas. Excusez-moi.
D'accord.
Nouvelle signature, le 4 septembre, j'enlève le bas. La France, tout à coup, est aux aguets et le 4 septembre découvre la même affiche avec le même mannequin, cette fois face à la mer, heureusement de dos, effectivement les fesses à l'air. Signature, avenir, l'afficheur qui tient ses promesses. Alors c'est une campagne qui est restée culte, dont on parle encore aujourd'hui dans la publicité.
Avenir, c'était un afficheur, hein, c'est ça,
oui,
Charlotte?
Oui, qui est depuis fait partie de JC Decaux, a été absorbé par JC Decaux. Et la publicité et les publicitaires s'en souviennent encore. Ils l'ont élu encore campagne préférée lors du 40e Grand Prix de l'affichage sur donc 4 décennies d'affiches. Bon, c'est pas la peine de vous dire que le microcosme publicitaire est à dominante masculine. Ce n'était pas la raison de ce vote. Ce qui était rigolo à l'époque, c'est que le grand public lui avait préféré une affiche de la Fondation Abbé Pierre et la dichotomie des deux votes avait prêté à sourire.
Vous voulez dire que les afficheurs sont des pervers?
Non, loin de moi cette idée. Ni les afficheurs ni les publicitaires, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Par contre, en fait, ce qui était à l'époque l'intelligence de cette idée, c'est que Myriam ne se déshabillait pas pour le plaisir des yeux, mais pour vanter la capacité d'avenir à synchroniser l'ensemble de son parc de panneaux, puisque c'était une époque différente, lors de laquelle les afficheurs avaient d'autres soucis que la concurrence d'Internet, celle d'un déficit de confiance qui était lié à des temps de pause qu'on disait aléatoires. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer aujourd'hui les deux registres et de voir comment Avenir, en 1981, vantait ses charmes en étalant ceux de Myriam, quitte à heurter certains et à exciter les autres pour exister sur le macadam, et comment, 37 ans plus tard, Clear Channel fait un choix qui est presque radicalement opposé, puisque les mots tuent l'image, ou plutôt l'image disparaît au profit des mots, signe d'un temps finalement où, à force de dire que les mots disparaissent ou ne tiennent plus le haut du pavé dans les copies publicitaires, elles peuvent revenir au contraire à leur firmament et être leur meilleure chance d'exister dans un paysage publicitaire qui est outrageusement chargé.
Eh ben moi, je trouve ça plutôt encourageant. Merci Charlotte.
Merci aussi.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et le Zoom du jour avec Alban Calais, bonjour.
Bonjour.
Directeur général adjoint de DDB Paris et Clément Prévosto, bonjour.
Bonjour.
Directeur marketing d'Ubisoft, vous venez nous parler de la campagne autour du nouvel opus du jeu Assassin's Creed en pleine guerre du Péloponnèse qui oppose, je vous le rappelle, Frédéric, Athènes et Sparte en quelle année
431,
bravo, avant Jésus-Christ. Donc jeu très immersif comme à chaque fois, des décors, des personnages très réalistes. On est revenu dans l'Antiquité, un vrai travail de précision là pour les équipes d'Ubisoft, enfin comme à chaque fois vous me direz.
Ouais, tout à fait. Non, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Assassin's Creed, ça a démarré il y a 12 ans maintenant. Et dès le départ, il y avait vraiment une volonté de proposer quelque chose qui n'existait pas à l'époque. C'est de faire que l'histoire devienne un terrain de jeu, finalement. Et donc chaque année, et c'est une grande chance, même quand on fait du marketing, on a une période historique différente à explorer. Et c'est vrai que cette année, on est en pleine guerre du Péloponnèse, donc en Grèce antique. C'est la première fois qu'on va aussi loin, finalement, dans l'histoire. Et c'est assez passionnant.
Bon alors, à côté de ça, pour promouvoir cet opus, une campagne signée DDB Paris. Quand on voit la créativité des équipes d'Ubisoft, on dit que vous, finalement, derrière, vous avez plus grand-chose à faire.
Ah, c'est un vrai client qui pousse à l'humilité. C'est-à-dire que je pense qu'il y a très sincèrement, il y a plus de créatifs, au sens propre du terme, chez Ubisoft que chez nous. Et de fait, ça nous pousse à faire deux fois plus, à aller deux fois plus loin pour essayer de les surprendre. C'est un client avec lequel on vient pas juste en disant « on a une petite idée », quoi.
Ouais. Mais du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que vous faites pour des jeux vidéo, des films qui ressemblent à ce qu'il y a dans le jeu vidéo, mais c'est pas le jeu vidéo.
C'est, en fait, il n'y a pas vraiment de recette. C'est vrai qu'on a une difficulté en général, c'est de s'affranchir du jeu et des équipes de production qui ont un contenu qui délivre avec une histoire, et qu'en général, on s'entend plutôt sur la backstory, ce qui se passe à côté. C'est pas exactement la même chose. On montre un peu l'envers du décor.
On est d'accord.
En revanche, ce qui est certain, c'est que à l'heure où le joueur à Netflix, Spotify est à un niveau absolu sur l'ensemble de sa vie de loisir, nous, on se doit d'être au moins à ce niveau-là aussi sur tous les éléments qui composent un spot de pub pour Ubisoft. Quoi.
Un spot de pub à la fois très cinématographique et très décalé. On en regarde et on en écoute un petit extrait.
Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une famille. Choisir son survêt et le sac qui va avec. Choisir son canapé avec les deux fauteuils, le toit crédit avec un choix de tissu de merde.
Bon, campagne décalée. Alors là, on joue sur les deux temps, le temps actuel et le temps passé qui vous est cher chez Ubisoft.
Ouais, tout à fait. Mais je rebondis sur ce que disait Alban. C'est vrai que nous, quand on travaille avec nos agences, on n'a pas forcément envie de raconter juste l'histoire de nos jeux. On essaie de trouver quelque chose un peu plus grand que ça. Et il y a un thème qui nous est cher dans Assassin's Creed, c'est le libre arbitre. C'est ce pourquoi nos héros, nos assassins se battent. Quand on a commencé à travailler sur Odyssée, on s'est vite rendu compte qu'un truc assez passionnant, finalement, c'était que, à l'époque, votre destin, il n'était pas vraiment dans vos mains. C'était les dieux qui décidaient de ce qui allait vous arriver. Ouais. Et donc, on s'est posé la question du choix. Et on a trouvé que cette question du choix était pertinente, forcément, en 430 avant Jésus-Christ, mais elle est toujours hyper pertinente aujourd'hui. C'est avec cette question-là qu'on est venu voir, justement, DDB Paris, On leur a demandé de remettre le choix au cœur de notre marque et puis de poser la question de notre choix aujourd'hui dans nos sociétés d'aujourd'hui.
Kodak.
Alors c'est plutôt une généralement une réussite, ça vous inspire parce que vous avez eu des tas de prix pour Ubisoft avec Far Cry notamment à Cannes. C'est parce que le terreau de base est déjà très créatif que vous remontez un niveau au-dessus.
Ah, ce serait trop facile s'il y avait une recette.
Parce que c'est plus libre.
Ce serait trop facile s'il y avait une recette. En fait, je pense que ça renvoie à une question de le rôle d'une publicité pour un jeu vidéo dont la principale publicité est le jeu vidéo.
Du coup, ça s'adresse à qui
en fait, on pourrait se poser la même question sur le cinéma. Ouais. Une bande-annonce, ça n'est que le reflet d'eux. Donc nous, on essaie de faire autre chose. En fait, on essaie de sortir d'une certaine manière du monde du jeu vidéo. Il y a les joueurs, et d'ailleurs, c'est une population qui, naturellement, va aller chercher de l'information, va savoir tout du jeu. Le plus vite possible, quasiment en temps réel, à partir du moment où les infos existent. Et il y a ce que nous, on essaie de faire ensemble, qui est une population peut-être un peu moins joueuse, naturellement, un peu moins définie, à qui on va aller chercher et faire passer ça de l'envie de joueur à l'envie, sans être prétentieux, d'humain, je sais pas, mais en tout cas, aller chercher quelque chose d'un peu plus personnel dans l'air du temps, quelque chose auquel on peut se rattacher, même aujourd'hui, en 2018.
Et puis, ce qui est important, c'est que nous, on fait de l'entertainment. Donc nous, ce qu'on aime faire chez Ubi et avec nos partenaires, c'est bien sûr l'entertainment par nos jeux, mais par tout ce qu'on crée autour, par exemple aussi une publicité.
Oui, et puis ça s'arrête pas là. J'ai vu qu'il y avait une expo, il y a des livres, il y a des opus en collaboration avec Historia. Vous avez balayé très très large.
On fait beaucoup de choses. Ça commence à être une marque qui est chez nous depuis un bon moment maintenant. On a eu beaucoup d'opus qui nous ont permis justement de balayer beaucoup de périodes dans l'histoire. Et oui, on essaye de toucher à différents sujets. L'année dernière, par exemple, on a lancé une version plus presque éducative, puisque sur le jeu qui sortait sur l'Égypte, on avait proposé ce qu'on appelait Discovery Tour, qui permet, sans aucune notion de gameplay ou de combat, de découvrir le monde égyptien de l'époque de Cléopâtre, et puis juste d'apprendre en se baladant dans le jeu. Donc ouais, on essaie vraiment d'explorer autour de notre marque tout un tas de nouvelles façons. En tout cas, d'utiliser le jeu vidéo, ça peut aller vraiment de la pure expérience de fun et de l'entertainment à quelque chose qui finalement s'adresse à tous.
Merci beaucoup Clément Prévostot, directeur marketing d'Ubisoft, et Alban Calais, directeur général adjoint de DDB Paris.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Avec aujourd'hui Christophe Feuillet, directeur de la communication de GRT Gaz. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler aujourd'hui du programme L'énergie des possibles que vous avez lancé début septembre pour parler de la transition énergétique. Comment est-ce que vous est venue l'idée de ce programme ?
L'idée de ce programme, elle est assez naturelle. Quand on est transporteur de gaz, c'est le cas de GRT Gaz, on souhaite participer à la transition énergétique. Et donc, effectivement, aujourd'hui, GRT Gaz s'est donné pour mission aussi de faire découvrir une nouvelle énergie renouvelable, le gaz renouvelable, ou plutôt les gaz renouvelables, parce qu'il y a une variété de possibilités pour que le gaz, effectivement, soit une énergie d'avenir, une énergie de la transition énergétique.
Alors, vous avez à la fin 10 petits film d'une minute trente avec à chaque fois des témoignages très particuliers. Ça donne aussi du concret un peu à ce que vous faites pour le grand public qui vous connaît pas finalement.
Bon, exactement. La campagne, elle a démarré il y a à peu près un an de façon assez traditionnelle avec un film publicitaire et des annonces presse. Mais cette fois, on souhaitait aller plus loin effectivement dans la concrétisation parce qu'il n'y a pas meilleur ambassadeur finalement que ceux qui font la transition énergétique et qui ont choisi le gaz renouvelable pour la faire. Donc on est allé à la rencontre de ces pionniers en quelque sorte, pour découvrir la manière dont ils utilisaient le gaz dans leur activité de transport, mais aussi le gaz à la ferme, par exemple. On a l'exemple de Damien Roy qui exerce à Mortagne. Il est en Vendée, il est éleveur, et tous ses effluents, les effluents de son élevage, ça devient du gaz renouvelable. Et non seulement ça, mais en plus de ça, il a installé une station une station service pour alimenter des poids lourds, ainsi que des véhicules individuels d'ailleurs. Voilà, il y a tout un système en fait d'économie circulaire qui se met en place avec ces gaz renouvelables.
Vous avez eu des retours de consommateurs, de gens qui se sont sentis interpellés par cette campagne ?
Je pense que en fait pour l'instant, il est trop tôt pour avoir des retours et cette campagne est en cours de diffusion. L'accueil est plutôt bon, mais en fait, effectivement, cette campagne touche les Français parce qu'elle concerne finalement des valeurs qui nous sont chères, à savoir l'économie circulaire aujourd'hui, à savoir la gestion raisonnée de nos déchets et puis, d'une manière générale, la sobriété, arrêter de gaspiller. Donc, on a aussi des exemples dans la restauration. On peut faire du gaz renouvelable avec les déchets de la restauration. On peut faire également du gaz renouvelable dans un parc animalier comme Thoiry pour avec les déjections animales. Oui. Et puis on a d'autres, j'allais dire dans ce programme, on a des sujets qui sont encore plus tournés vers l'avenir, comme le CEA qui travaille sur des programmes de recherche concernant effectivement la gazéification de déchets solides cette fois.
Merci beaucoup Christophe Feuillet. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de GRT Gaz. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.